silence. Et là, ça, je voulais vraiment retourner sur ton dernier point, parce que le fait que justement tu présupposes, comme font beaucoup d'ailleurs, une relation pour la reconnaissance. Tu la trouves chez Hobbes, chez Smith, chez Drive pour la reconnaissance. C'est une motivation fondamentale que tu justifies comme une espèce de possibilité de réévaluation. C'est très intéressant, auto-renforçant de sa réponse. Cependant, sa propre vie, sa propre autobiographie prend valeur, assume une valeur dans cette redescription. Donc, cette tension, disons, un certain objectif de reconnaissance justifie, disons, nos actes passés d'une nouvelle façon. Mais cette motivation, enfin, cette motivation que tu donnes pour la reconnaissance est complètement indépendante de la confiance que les autres te font. Enfin, tu as besoin de la confiance, mais c'est pas ça qui te motive. C'est-à-dire qu'il y a d'autres auteurs, par exemple, je pense Philippe Pettit, par exemple, qui dit, enfin, une des motivations de faire confiance, de honorer la confiance, c'est la reconnaissance. Et pourquoi je veux cette reconnaissance? Parce que ça renforcera, disons, la confiance que l'autre a en moi. Aussi,
il y a quand même ce genre de sinon de circularité, du moins de spirale.
C'est-à-dire, est-ce que c'est effet,
oui.
Cercle vertueux?
Oui. C'est pas, il n'y a pas circularité parce que c'est pas au débarrage. Enfin, supposons qu'on on démarre avec une incertitude et puis on voit que certains groupes, certaines collaborations créent une sorte de renforcement mutuel, de manifestation de valeur et de reconnaissance mutuelle. Donc on aimerait participer à ça. Alors, donc on voit cet effet interactif. C'est pas nous qui, au départ, là. Et on expérimente que pour le faire, il faut rentrer dans cette logique de manifestation de valeur en sacrifiant quelques intérêts. Et ça, ensuite, ça fait que, éventuellement, on fait partie d'une certaine communauté, et ainsi de suite. Et on se trouve, alors évidemment, il y a un problème qui est celui de le fait qu'on avait parlé dans d'autres ouvrages, là, avec Lorenz, etc., ce qui était sur le fait que l'engagement par pas peut nous amener à quelque chose qui, en fait, se révèle, bien sûr, très fort en reconnaissance, mais assez désastreux du point de vue d'un beaucoup d'autres intérêts. Alors, c'est pour ça que, c'est-à-dire, vous pouvez être amené au sacrifice de votre vie pour une cause qui, finalement, si vous aviez vraiment... envisager d'avance toutes les possibilités de réévaluation, vous ne l'auriez peut-être pas choisi. Hein? Alors c'est pour ça que si on essayait de faire une théorie du choix raisonnable qui tienne compte de la confiance, etc., de la reconnaissance, à ce moment-là, il faudra introduire cette perspective de non-fermeture des réévaluations. C'est-à-dire que les réévaluations ne doivent pas forcément aller toutes dans le même sens. Si on n'est plus capable que d'auto-renforcer une évaluation, c'est peut-être pas très rationnel. Mais ça, c'est assez compliqué à mettre en place, hein, pour avoir une théorie de la rationalité qui permette de dire, voilà, je préfère telle voie parce qu'elle a quand même encore une possibilité de bifurcation sur une autre, un changement de préférence. Hein. Donc, c'est pas juste l'auto-renforcement. Mais au début, on est attiré, évidemment, par l'auto-renforcement et par le fait que, bon, c'est... pas Sartre appelle ça le groupe en fusion. Hein. Donc au lieu d'avoir faire la queue devant le bus, finalement on passe à un groupe en fusion. Alors, il y a une magnification de la reconnaissance qui nous attire, bien sûr.
Moi j'avais une question peut-être un peu naïve à vous poser, mais vous avez commencé votre exposé en disant si on admet la confiance, c'est un processus de réduction de l'incertitude. Bon, cette manière rationnelle d'envisager la confiance, je pense que c'est ce que vous avez dit. Essayer d'ajouter une dimension plus affective. Et moi, de manière naïve, alors en prenant les termes au sens commun, hein, de l'affectif, et je n'ai pas bien senti cette dimension dans votre exposé qui me paraît un exposé extrêmement rationnel, extrêmement articulé autour de la confiance, réduction d'incertitude, coopération, donc avec différents registres de coopération, où véritablement ce saut dans l'engagement, cette espèce de foi psychosociologique qui fait qu'on saute dans l'engagement, je ne l'ai pas bien saisi.
Il n'y a pas réduction de l'incertitude, acceptation de l'incertitude. Et donc sont dans l'inconnu.
Je l'ai dit sur votre réflexion,
oui.
En m'interpellant moi-même sur ce caractère rationnel de la démarche et de ses réflexions. Est-ce qu'il n'y a pas en quelque sorte une espèce de loi naturelle du fait que l'homme est un animal social et donc qu'il y a une espèce de solidarité organique générée de manière spontanée, je dirais.
Oui, mais j'ai pas. J'ai parlé d'attraction, hein, pour le fait de voir les autres, voir un groupe fusionnel. Il y a une certaine attraction, en même temps, on se sent généralement aussi exclu par un groupe très fusionnel. Donc, ce genre de choses, et ça, c'est pas un calcul. Hein. Alors, affectif, qu'est-ce qu'il y a d'affectif là-dedans? Mais c'est le fait que, justement, nous puissions réévaluer. Parce que c'est pas ça, c'est lié à une dynamique affective. Et donc, ce qui m'intéresse dans l'affectif, c'est les dynamiques émotionnelles. Donc, d'abord, effectivement, si vous voulez, moi je définis une émotion comme la perception d'un différentiel entre ce que nous le cours normal de ce que nous attendions éventuellement complètement inconsciemment. Hein. Et ce qui se produit, évalué bien sûr selon un certain nombre de préférences, de désirs, et donnant un ressenti affectif. Alors le ressenti affectif, je suis obligé de le décrire qualitativement, donc, mais je ne peux pas l'évacuer. Hein. Ce qui est souvent, vous avez des théories des émotions dans lesquelles en fait on ne dit pas comme on a besoin, simplement évidemment le décrire, on peut le faire, mais en des termes qui sont eux-mêmes affectifs. Donc ça tourne un peu en. Mais enfin, différentiellement, on peut essayer de voir quelle est la différence entre les affects et un degré, une éventuelle neutralité. Dans ces dynamiques affectives, vous allez avoir justement une émotion, ça, importante, hein, et puis, qui se réfère à un événement important de votre vie. Ça peut être, donc là en l'occurrence, c'est des risques pris pour une communauté, la rencontre de quelqu'un qui coordonne cette communauté, enfin des phénomènes qui sont liés à ce qu'on appelle des charismes, hein, une sorte d'autorité charismatique assez importante, ou alors à ce que ça rappelle le groupe en fusion. Ça va vous amener à réévaluer vos propres préférences initiales. C'est-à-dire penser que vous aviez comme ambition une certaine carrière, une certaine évaluation par rapport aux autres, etc. Et que ce genre d'anticipation que vous aviez ne pouvait pas vous donner ce type d'interaction affective. Donc vous êtes ébranlé et vous allez éventuellement convertir en quelque sorte à cette communauté. Je crois que ça, c'est un des moteurs actuels très importants du fait que le religieux se développe. Hein, c'est que si vous voulez, l'autre. Ce que nous propose la société occidentale, c'est le marché, et le marché, c'est de la compétition, et de la compétition, ça veut dire qu'il y en a quelques-uns qui gagnent. Alors évidemment, en face, vous avez des communautés où on vous dit que tout le monde est soudé. Bon, on sait qui gagne effectivement, là, entre les deux, hein, c'est clair. Donc l'affectif est pensé par sa dynamique.
D'accord. Une question.
Une question et aussi une remarque. Votre approche de la science, c'est quand même, je dirais, tout à fait dans le créneau rationaliste. Oui. Une approche vraiment rationnel de la confiance. Et je voulais vous poser comme question, est-ce que vous parlez de possibilité de confiance, mais est-ce qu'on peut parler d'un devoir de confiance? je vais, en introduisant cette question-là, je renvoie évidemment à la dimension éthique ou pratique qui peut être liée à la confiance. C'est-à-dire, à quelles conditions, finalement, je dois accorder ma confiance et non pas je peux accorder ma confiance.
Le devoir a été. Le devoir est toujours surérogatoire, bizarrement. Hein? C'est-à-dire, il demande des sacrifices qui ne sont pas raisonnables. Qui apparaissent pas raisonnables dans un premier temps. Il n'y a pas de... Enfin, ou alors c'est le devoir normatif, mais alors là, c'est de la...
C'est la théologie. Il y a un devoir de confiance dans
oui.
la théologie de la religion.
Oui.
Mais quand, au niveau moral, par exemple, il y a un devoir, vous avez des devoirs. Moral.
Oui.
Je n'ai pas le devoir de faire confiance à une personne qui n'est pas, sur laquelle je n'ai pas de raison qu'elle soit...
Non.
De penser qu'elle soit fiable.
Mais si la confiance... Je n'ai
pas le devoir de faire confiance à l'Iran qui n'est pas de...
Mais si vous donnez votre confiance, si vous donnez votre confiance, vous la donnez d'une manière qui tend vers l'inconditionné. Parce que vous ne pouvez pas faire confiance en introduisant de la défiance dans votre confiance.
Mais c'est l'article, normalement, on a un devoir peut-être d'honorer la confiance, mais le devoir de faire confiance, ça serait très, très dangereux dans une société, disons,
pas de l'extérieur. Là, vous parlez du devoir de faire confiance comme si quelqu'un vous obligeait à faire confiance. Mais quand vous donnez votre confiance, c'est presque un devoir. Autrement, ça serait
oui, mais
ça
c'est pas,
que votre confiance
c'est
conditionnée.
Ce n'est pas un devoir au sens de la norme obligatoire.
Non, c'est au sens de...
C'est un devoir au sens de... Vous pouvez sacrifier un certain nombre, donc par exemple, je ne sais pas, pour la fidélité, vous pouvez sacrifier des soupçons, inversement. Hein. Là, ça sera. Est-ce que ça sera un devoir? C'est peut-être surérogatoire, ça. Je pense que là, vous manifestez une valeur, généralement, par du surérogatoire. Donc, quelque chose qui est un sacrifice par rapport à une conduite qui serait plus routinière, plus guidée par des intérêts, alors, de conservation d'un statut social, par exemple. Hein? Mais on sait bien qu'on peut conserver un statut social tout en aménageant des dispositifs qui vous permettent quand même d'échapper à certains sacrifices qui vous demanderaient. Donc là, faire les sacrifices pour manifester cette valeur, enfin, parce que cette valeur, pas pour manifester la valeur, mais à cause de la valeur, ça, évidemment, c'est toujours surérogatoire. C'est-à-dire, on va toujours un cran au-delà du devoir. Soit on est au fond de ça, soit on est au-delà. Il n'y a pas de... C'est pas un endroit stable, le devoir.
Oui. Alors, il y a encore deux questions. On va les prendre ensemble et je vous propose d'y répondre.
Mmh. À propos de la défiance, est-ce que la deuxième devoir est une défiance dans ce contexte? C'est-à-dire, le fait que la première, dans un premier temps, je défie une chose, et puis après, je me défie de ma défiance. C'est plutôt un deuxième type, et je ne suis pas sûre qu'à ce moment-là, la défiance égale la confiance. Alors,
alors, c'est tout à fait vrai qu'il y a un sens de confiance auquel on n'a pas besoin de surmonter une quelconque défiance. Mais tu l'as toi-même écarté dans ton exposé. Parce que celui-là, on peut tout à fait l'étudier. C'est-à-dire, quels sont les types de conduite qu'on attend à la base. Et donc, je crois que, par exemple, Albert Augien, c'est ça qui veut étudier comme norme fondamentale, quoi. Est-ce qu'on a confiance dans ces normes? Ben non, tout simplement, on vit comme ça. Hein. Si on pose le problème de la confiance, c'est que, justement, on est à un niveau un peu différent. Alors, je suis d'accord avec vous que, c'est pas sûr que défiance double égale confiance. mais dans un sens, je dirais, dans un tout autre sens. C'est-à-dire que, en fait, effectivement, défiance redoublée n'est pas la confiance du charbonnier, quoi.
Hein?
Oui. Non, absolument pas, parce que l'escompte suppose des probabilités. Donc, être défiant par rapport à votre défiance, c'est que justement vous suspendez la défiance et donc vous acceptez l'incertitude. Alors l'escompte, c'est pas ça. C'est au contraire, on essaye de probabiliser la chose, de l'encadrer, tandis que non, le caractère de supporter l'incertitude veut dire qu'on n'est pas, on n'est pas capable de complètement encadrer le phénomène. Effectivement.
C'est le risque, prendre le risque.
J'ai moi-même des comportements comme ça, puisque autrefois je faisais de l'escalade en solo, mais je me suis aperçu que c'était des prétentions irrationnelles. Et donc, je ne suis pas certain que ça soit vraiment la confiance que je souhaite. Quoi. La confiance que je souhaite est plutôt d'accepter l'incertitude en le sachant.
Voilà, je vous propose que M. Delmas exprime sa question. Et peut-être, je ne sais pas si on va y répondre tout de suite parce qu'on a un petit horaire. Donc voilà, allez-y.
Ah oui, excusez-moi.
Dans les formats, au niveau des institutions, il y a souvent une reconnaissance des esprits. C'est-à-dire que les stratégies, les conduites d'exclusion, qui permettent de retrouver une confiance. Parce qu'il y a beaucoup d'un groupe externe, dans les formats. Mais surtout, est-ce que vous établissez un lien, enfin une corrélation?
Ça dépend quel type de pouvoir. Donc l'élection du coordinateur lui donne du pouvoir, bien sûr, hein, puisque ça lui permet d'exclure des gens, etc., et de contrôler si la coopération est assurée. Vous voyez que les phénomènes de pouvoir vont jouer de tous les types de reconnaissance. Il me semble que le pouvoir résulte de cette recherche de différents types de reconnaissance. Effectivement, lorsqu'il n'y a... Alors, il peut y avoir soit défiance totale, hein, c'est le Tibère, soit, au contraire, une sorte de... c'est pas de la confiance, c'est de la certitude. Voilà. Mais on pense que rien ne... Tout va marcher parce que vous êtes le meilleur. Et qui est lié à ce que justement les collaborateurs, il n'y a pas, on est dégradé par rapport à ce niveau où l'élu choisit ceux qui l'élise. Là, il choisit des gens qui sont évidemment ses valets, c'est-à-dire qui lui disent exactement ce qu'il souhaite entendre, parce que sinon il les exclut. Et là, évidemment, vous avez une dégradation de la confiance des autres. Qui va de pair, évidemment, avec cette clôture du pouvoir.
Je crois aussi que plus tard dans le séminaire, et notamment peut-être à travers le projet d'Olivier Olkir, qui est ici, on reviendra à ce lien entre confiance et pouvoir, qui sont assez liés par cette notion d'incertitude. Voilà. On va aller prendre une petite pause et on se retrouve à 16h30, si vous voulez bien, pour les deux expositions.